Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le principe de l'émission, faire la connaissance d'un inconnu. Un personnage inconnu de l'histoire et révélateur de son époque. Et cela en compagnie de Jean Montalbetti, d'un historien aussi, ou d'une historienne, médiateur, de témoins et d'experts. Direction géographique et historique, la Palestine du Moyen-Âge, une Palestine disputée aux armées des Sarrasins, pour le premier rendez-vous avec une princesse franque, Isabelle de Jérusalem. Les Inconnus de l'Histoire par Jean Montalbetti, réalisation Christine Bernard-Sugy, première diffusion sur France Culture le 24 septembre 1982.
Unknown people in history.
Desconosciuti nella storia.
La storia dos desconhecidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rarezza.
The unknowns of history.
Les Inconnus de l'Histoire. À la fin du XIIe siècle, à la suite des chevaliers français, anglais, allemands, lombards, qui décident de se croiser et qui font route vers Jérusalem pour soutenir la dynastie franque qui règne depuis près d'un siècle après l'implantation en Palestine de Godefroy de Bouillon et de ses barons. Une Palestine qu'ils disputent âprement aux armées des Sarrasins commandées par l'un des géniaux artisans de l'unité arabe. Sur ce chemin qui mène à Jérusalem, notre médiateur sera l'historienne Régine Pernoud. Nous recueillerons aussi le point de vue de Pierre Aubé. Les barons et les Sarrasins que nous rencontrerons auront les voix de François Mestre, de Jean-Claude Rouault et de Pierre Tabar, et cela grâce à une réalisation de Christine Bernard-Sugy.
Il y avait dans la terre d'outre-mer un roi qui y avait été élevé. Il s'appelait Amaury. De lui naquit le roi Baudouin le lépreux. Baudouin vécut son temps et fut enfin livré au ver. Il avait pour sœurs deux demoiselles belles et sages. L'une était femme d'un baron qui s'appelait Onfroy de Thoron. L'autre avait épousé le comte Guillaume Longue-Épée, seigneur de Jaffe sur la mer, frère du marquis de Montferrat. Elle eut de lui un héritier mâle qui s'appela Baudouin, comme son oncle. Le comte mourut, comme le voulut le sort, et l'enfant vécut. Guy de Lusignan désira la comtesse et l'épousa. Baudouin l'enfant fut roi, mais il ne le fut guère. C'est ainsi que Dieu gouverne le monde. Quand l'enfant fut mort, le royaume revint de droit à la dame. Et Guy se fit légitimement couronné roi, ce qui fut cause de bien des guerres.
Régine Pernoud, historienne du Moyen-Âge, vous avez écrit sur les croisades et vous avez aussi écrit sur les hommes des croisades. Et j'insiste bien sûr sur hommes, sur les croisés, qui depuis le pape Urbain II à la fin du XIe siècle et pendant tout le XIIe siècle et également le XIIIe, ont tenté de délivrer le tombeau du Christ tomber entre les mains des musulmans et de maintenir un royaume chrétien en Palestine où ont régné des francs. Alors, pourquoi est-ce que dans cette période qui est marquée évidemment essentiellement par une présence masculine, c'est-à-dire l'histoire des croisades, qui est avant tout une histoire de guerre, également de tuerie et presque de, et souvent de massacre, plutôt que de pieux pèlerinage, vous avez choisi une femme, et une femme dont la personnalité reste encore tout à fait mystérieuse, Isabelle, reine de Jérusalem, à une époque où Jérusalem appartient au sultan d'Égypte et de Syrie Saladin, puis à son frère Malik el-Adil, c'est-à-dire environ de 1191 à la mort d'Isabelle, probablement en 205.
Plus je vais, plus je suis étonnée de voir que justement les précédents historiens ont toujours cette tendance à ne faire ressortir que le rôle des hommes et tout de même à gommer un peu celui des femmes, qui n'a pas été un rôle de second plan, puisque quand nous évoquons Isabelle, justement, c'est de sa personne qu'a dépendu la succession du royaume de Jérusalem. Et ça nous montre qu'à cette époque, nos coutumes, puisque les coutumes franques, finalement, ont été celles du royaume de Jérusalem, en grande partie, eh bien, nos coutumes faisaient place à la succession par les femmes, ce que la France ne connaîtra plus à partir du XIVe siècle.
C'est ça, la femme loi salique, donne,
voilà,
qui n'existait pas.
Ce que les universitaires parisiens ont redécouvert et baptisé sous le nom de loi salique, qui était une loi du VIe siècle, des Françaliens du VIe siècle, qui ne faisait qu'établir un ordre de succession, les garçons préférés aux filles. Cette loi, donc, a été abolie dès le VIIe siècle. Et il a fallu les Sorbonnards, enfin les légistes de l'Université de Paris, pour la redécouvrir très opportunément quand il a fallu suivre les vues, les visées d'un Philippe le Bel, celle qui nous a amené à la guerre de Cent Ans d'ailleurs.
Est-ce que vous pouvez nous dire, à travers les documents que vous connaissez, quel portrait on pourrait faire d'Isabelle de Jérusalem, qui est née dans cette seconde moitié du XIIe siècle, c'est-à-dire probablement vers 1171?
Oui, parmi tous ces hommes qui ont pris la croix, il y avait beaucoup de femmes, car la plupart des seigneurs avaient amené leurs femmes, et c'est ce qu'on ne sait pas suffisamment. Non seulement la plupart des seigneurs, mais même parmi les petites gens, il y en a beaucoup qui amènent leurs femmes, et il y a un certain nombre de femmes qui viennent, et Isabelle est l'une de ces femmes, descendante de seigneurs établis à Jérusalem ou aux environs, et qui d'ailleurs se sont unis très volontiers à des princesses de l'endroit, des Arméniennes en particulier, qui étaient chrétiennes. Isabelle, donc, appartient à une véritable dynastie de Français transplantés en Terre Sainte, et qui, mon Dieu, s'y plaisent même au point que, pour eux, la métropole, la mère patrie, est déjà quelque chose d'assez lointain. Tout de même, de temps en temps, arrivent d'autres croisés, parce qu'enfin, nous avons l'habitude de numéroter nos croisades, n'est-ce pas? On en comptait 8 autrefois. Mais c'est assez inexact comme tableau. En réalité, depuis la première, il y a eu une première croisade, un premier pèlerinage en armes, et ensuite des arrivées successives, dont quelques-unes plus marquées, parce qu'il y avait des rois, des empereurs, des princes, etc. Et la reconquête de Jérusalem nécessitait ce mouvement continu, parce que autour de lui, Godefroy de Bouillon n'avait gardé qu'une poignée de chevaliers. Et ces chevaliers trouvaient tout à fait normal, ayant accompli leur vœu de croisade, eh bien, de revenir en Terre Sainte. N'oublions pas qu'à cette époque-là, on ne s'engage pas à faire la guerre toute sa vie. Le Seigneur doit 40 jours par an à son suzerain, n'est-ce pas ? Et au bout des 40 jours, que la guerre soit terminée ou pas, il a très envie de rentrer chez lui. C'est ce qui s'est passé pour la plupart des croisés.
Godefroy de Bouillon, auquel vous faisiez allusion, est le premier roi de Jérusalem et il a été couronné en juillet 1099.
1099, voilà, très peu de temps après cette conquête de Jérusalem qui a surpris tout le monde. Les Turcs et les croisés également, car Jérusalem était une ville remarquablement défendue. Et autour de lui s'établissent quelques chevaliers, d'ailleurs presque tous ceux qui s'établissent, l'historien Jean-Richard l'a très bien fait remarquer, et demeurent autour de Godefroy de Bouillon, ce sont des gens des principautés de l'Est et du Nord, des gens des Ardennes. Ils se trouvent entourés d'un certain nombre d'Ardennais. Au fond, c'est un peu sa famille. Ce sont les compagnons, ce sont les plus proches, et ils vont fonder des principautés, et puis les Siciliens, enfin les Normands de Sicile, les terribles Normands, pour qui une conquête lointaine était toujours bonne à prendre.
Seigneur, sachez qui
Que se passe-t-il en cette fin du XIe siècle pour que se déclenche le mouvement de la croisade ? Et quels sont d'abord les mobiles ? Est-ce qu'il y en a un seul, délivrer le tombeau du Christ, ou est-ce qu'il y a des motifs multiples ?
Les motifs sont multiples, évidemment, mais le plus important de tous, ce sont les ravages opérés par les Turcs, Seldjoukides, à leur entrée en Asie mineure. La bataille de Manzikert, 1071, qui a complètement anéanti les forces byzantines, rien ne leur a résisté, et en particulier, alors, l'abominable massacre, déjà, des Arméniens. Si bien qu'il y a eu, peu de temps après la bataille de Manzikert, un appel de l'Empire byzantin de Constantinople au pape. Et il fallait que cet appel chemine un peu dans les esprits. C'est en 1095, il y a une vingtaine d'années après, le pape avait lui-même de sérieuses difficultés, il faut le dire, à Rome. Et finalement, il reviendra au pape Urbain II de lancer en 1095 ce fameux appel du Puy du Concile de Clermont, qui retentira alors d'une façon extraordinaire chez les Francs.
Et l'idée même de la croisade alors venait de son prédécesseur Grégoire VII.
Oui, et d'autres. C'était la prise de conscience de cette arrivée massive des Turcs n'est-ce pas? Enfin, c'étaient les musulmans qui occupaient la Terre Sainte depuis déjà quelques 300 ans, mais les circonstances avaient changé considérablement. D'abord, à cause d'une série de califes, dont le fameux Hakim, au début du XIe siècle, qui se montrait aussi féroce que c'est le calife Omar, au moment de la conquête, s'était montré tolérant, en tout cas à Jérusalem même, n'est-ce pas, devant le Saint-Sépulcre. Donc il y avait eu cette première vague, on peut dire, de cruauté et de violence qui avait accablé les chrétiens de Syrie, et d'autre part, il y avait eu l'arrivée des Turcs seldjoukides. Ce sont eux surtout qui, il faut bien le dire, se sont conduits en ravageurs épouvantables, n'est-ce pas, en Asie mineure.
Comment est composé ce monde musulman? Parce qu'on parle dans ce monde musulman des Turcs, des Sarrasins, des Syriens, des Égyptiens. Il y a une certaine unité qui se crée à un moment, mais quel est ce monde musulman qui menace les chrétiens?
Rendons-nous compte, devant une carte de géographie, que les deux tiers du monde connu ont été recouverts par cette sorte de vague musulmane depuis le milieu du 7e siècle. Et parmi ces deux tiers, l'Espagne est encore, au moment du concile de Clermont, en partie musulmane, en tout cas toute l'Espagne du Sud. Que de même, alors, l'Iran, des régions comme l'Irak, etc., sont également musulmans, avec cette dualité radicale, peut-on dire, dans le monde musulman, des sunnites et des chiites, n'est-ce pas, qui se retrouvent jusqu'en Terre Sainte, puisque en Syrie, dans les montagnes, il y a des communautés chiites qui souvent se considèrent comme en complet désaccord avec les autres musulmans. C'est un monde lui-même assez contrasté. Seulement, il y a de temps en temps, dans ce monde musulman, soit de nouveaux arrivants, comme les Turcs, soit un parti ou une contrée qui prédomine. Et en ce qui concerne la Terre Sainte elle-même, il y aura une sorte de, je dirais pas de loi, mais de constante qui va s'imposer et qui est étonnamment actuelle. Toutes les fois que Égypte et Syrie se tendront la main ou appartiendront à un même chef, qu'entre le Caire et Damas se créera une unité, eh bien, le petit précaire royaume de Jérusalem sera menacé.
C'est surtout une initiative individuelle, plus qu'une unité des peuples, celle de Saladin?
Oui, là, c'est généralement une initiative individuelle. Là, en effet, il y a eu la personnalité de Saladin extraordinaire et à laquelle tout le monde rendra hommage.
Saladin se hâta d'étouffer une nouvelle conspiration qui avait éclaté contre lui. Et après avoir repoussé une flotte sicilienne qui avait fait une descente devant Alexandrie, il résolut de s'emparer de la Syrie. Cette contrée était dans la plus grande confusion. Noureddin, prince d'Alep, n'avait laissé qu'un fils âgé de 11 ans. Et sous cet enfant, les émirs se disputaient le pouvoir. Sur ces entrefaites, les chrétiens étaient venus faire une invasion sur la terre de Damas. Les émirs, au grand scandale des musulmans, avaient acheté leur retraite. Saladin affecta de paraître révolté de cette conduite. En qualité de vassal du fils de Noureddin, il protesta de son dévouement. Mais il réclama hautement contre la faiblesse des émirs et eut l'art de se présenter au peuple comme le vengeur de la religion offensée. « Vous avez, écrivait-il aux émirs, fait la paix avec les chrétiens. Cependant, les chrétiens sont nos ennemis communs. Vous avez fait tourner au profit des infidèles, l'argent destiné à protéger les vrais croyants. C'est un crime contre Dieu, contre son prophète, contre tous les hommes de bien. Ces reproches n'ayant pas corrigé les émirs, il en mit quelques-uns dans ses intérêts. Et sous prétexte de rétablir la tranquillité, il se fit livrer Damas, prit aussi Hama, Emes, et enfin alla assiéger le fils de Noureddin même dans Alep. Dès lors, il ne fut plus possible de se méprendre sur ses intentions. Les habitants se hâtèrent de prendre les armes, et plusieurs princes de la Mésopotamie, parents de Noureddin, accoururent. Mais leurs efforts furent inutiles. Le fils de Noureddin, pour conserver Alep, fut obligé de céder Damas, avec la Syrie méridionale, et de reconnaître l'indépendance de Saladin, qui obtint même du calife de Bagdad un diplôme par lequel il fut déclaré sultan d'Égypte et de Syrie. Et comme ce diplôme ne fixait aucune limite à ces nouveaux états, on peut bien croire que dès lors, Saladin se proposa de les étendre à volonté.
Pierre Aubé, vous avez consacré récemment un essai à Baudouin IV de Jérusalem, le roi lépreux. L'autre figure adversaire de Baudouin pendant toute cette période, c'est l'extraordinaire sultan d'Égypte et de Syrie, Saladin. Est-ce qu'on n'en a pas fait un peu abusivement un chevalier du Moyen-Âge, selon l'image qu'en avaient les croisés et les chrétiens ?
Tout à fait. Pour une certaine historiographie, c'est un personnage parfait. Le chevalier, le plus pur héros de l'islam. Et curieusement, les historiens arabes contemporains n'ont pas du tout cette opinion du personnage. C'est un personnage passionnant. C'est une extraordinaire figure mystique. Lorsqu'il devient maître de l'Égypte, c'est un homme qui a plus de 35 ans et qui n'a jamais fait parler de lui avant. Son père était au service de Nour ad-Din, lui-même était au service de Nour ad-Din, et il a eu l'éducation d'un homme religieux, d'un soufi, qui l'a profondément marqué. Les circonstances aidant, avec l'intervention de Nour ad-Din et des forces syriennes en Égypte, Saladin s'est trouvé projeté au premier plan de l'actualité du XIIe siècle en Orient. C'est-à-dire qu'il a refait l'unité religieuse de la Syrie et de l'Égypte, puisque les Égyptiens chiites étaient considérés comme des hérétiques dissidents par le reste de l'islam. Donc au départ, je crois qu'il y a une volonté religieuse, une volonté mystique. Et c'est cette volonté religieuse qui va pousser Saladin à étendre son hégémonie. On ne peut pas dire qu'il va mettre de la religion au service de la politique, parce qu'en islam, les deux sont indissolublement liés. Et c'est justement cette extraordinaire force de dynamique religieuse qui va effrayer la population musulmane de l'Orient au XIIe siècle. Car il ne faut pas s'imaginer que Saladin est un personnage qui n'a pas été contesté. C'est un homme qui va passer sa vie à lutter contre les forces centrifuges qui allaient à l'encontre de l'unité arabe. Et la royauté de Jérusalem, Baudouin en particulier, Guillaume de Tyr, qui était son chancelier également, vont tirer parti de ces forces de contestation en créant des alliances parfaitement objectives avec Alep avant 1183, et puis bien entendu avec Mossoul, alliances qui sont attestées par les documents de la chancellerie du sultan.
Thank you.
Kéroubé, est-ce que vous pouvez nous décrire Jérusalem en cette fin du XIIe siècle? Comment était organisée et constituée la ville?
La ville de Jérusalem au XIIe siècle, on la connaît très bien, en particulier par un plan qui date très exactement de cette époque et qui est conservé à la bibliothèque de Cambrai. C'est une très petite ville qui est entourée de murailles, murailles qu'il a fallu d'ailleurs réduire avec l'arrivée des Francs, de façon à pouvoir assurer une défense plus facile. Ces murailles étaient percées de 7 portes qui permettaient, n'est-ce pas, les différents transits d'armées, de marchandises. Il y avait deux pôles dans cette ville, le pôle sud-est, qui était le temple, avec les deux mosquées, El-Aqsa d'une part, et le dôme du rocher, avec le fameux rocher d'où le prophète Mohammed se serait envolé lors de sa fameuse montée au ciel, et qui pour les juifs sont l'endroit sur lequel Isaac aurait été sacrifié par son père. Donc un lieu très chargé d'histoire. Au nord-ouest, la basilique du Saint-Sépulcre, qui est le pendant exact du temple et des deux mosquées, et le palais des rois de Jérusalem. La ville à cette époque, c'est, si vous voulez, un gigantesque souk, divisé en quartiers, qui ne sont pas des quartiers étanches. Le quartier juif, le quartier chrétien, et le quartier des chrétiens orientaux, quartier arménien, quartier syrien, etc. Avec un certain nombre de monuments construits par les Francs, qui étaient extrêmement célèbres, comme par exemple le marché construit par la reine Mélisande, ou les bains du patriarche, ou la place au blé, etc.
Nous arrivons à la famille d'Isabelle et d'abord à une figure tout à fait extraordinaire qui a pourtant régné quelques années et qui domine toute cette époque, qui précède justement la période où Isabelle va avoir elle-même des responsabilités politiques. Je veux parler de la figure de Baudouin IV, le roi lépreux.
Le roi lépreux est le demi-frère d'Isabelle. De même père, mais Amaury, leur père...
Amaury Ier, le roi de Jérusalem.
Amaury Ier, c'est ça, s'est marié deux fois successivement, et c'est sa seconde épouse, Marie Comnène, d'ailleurs une Byzantine, qui est la mère d'Isabelle. De son premier mariage, Amaury avait eu une fille, Sibylle, et un fils, Baudouin, qui est ce petit roi lépreux que vous évoquez, qui est une figure véritablement extraordinaire. Ce jeune roi lépreux va régner une dizaine d'années. L'âge de la majorité, normalement, d'ailleurs pour les garçons, c'est 14 ans à l'époque.
Et il a 13 ans lorsque son père meurt.
Voilà, il a 13 ans lorsqu'il meurt. C'est à cet âge-là qu'il est couronné, ou l'année suivante. Mais déjà, on le sait, atteint de ce mal qui, à l'époque, ne pardonne pas.
Alors en fait, ce tout jeune roi lépreux qui va régner entre l'âge de 13 ans et puis 24 ans, c'est lui que Saladin va constamment trouver sur sa route, en face de lui. Il va y avoir un véritable duel entre ces deux personnalités tout à fait extraordinaires.
Oui, c'est un très grand moment de l'histoire, je crois, en effet. Cette sorte de duel entre deux personnalités, on peut le dire, d'égale valeur, et dont l'un est un enfant, en tout cas un adolescent, et un adolescent qui se sait sans avenir possible.
On pourrait donc s'imaginer que le personnage de Baudouin roi à 13 ans ne va être dans les mains de Saladin, n'est-ce pas, qu'un fétu de paille, et que le royaume va disparaître à brève échéance. Or, on s'aperçoit que ce personnage qui est physiquement diminué va avoir une extraordinaire emprise sur son époque, va mettre Saladin en échec pendant 11 ans, et ce n'est qu'après la mort de Baudouin, 2 ans après la mort de Baudouin, que Saladin pourra exercer son hégémonie sur la Palestine. Le personnage lui-même est assez complexe, en ce sens qu'il... ce n'est pas le même personnage suivant les époques, si vous voulez, les différentes époques de sa vie très très brève. Les 5-6 premières années de sa vie, ce sera vraiment le chef de guerre. C'est-à-dire qu'il va mener des campagnes extrêmement brillantes, aussi bien sur la frontière égyptienne que sur la frontière de Damas, et même sur la frontière nord du royaume de Jérusalem vers Beyrouth. Campagnes qui vont, pour la plupart, se terminer par des succès extraordinairement brillants et qui vont marquer, si vous voulez, l'histoire arabe elle-même, puisqu'on en parle encore. La deuxième partie de sa vie, ce sera vraiment le politique. C'est-à-dire le personnage qui, voué à une chasteté absolue, étant donné son état, ne pouvait absolument pas espérer avoir d'enfants de son sang, va essayer de préparer l'après-Baudouin, et un après-Baudouin qu'il sent tout à fait proche. Ce personnage qui meurt à 24 ans, qui meurt aveugle, va passer les 5 dernières années de sa vie à essayer de tisser dans le royaume de Jérusalem et jusque dans les grandes royautés et empires occidentaux le sort futur du royaume de Jérusalem. Et c'est là, évidemment, qu'intervient le personnage d'Isabelle.
Alors justement, on s'apercevra peu de temps après sa mort qu'il est extraordinairement difficile d'imposer une volonté politique à ces barons, à ces chevaliers qui sont en conflit les uns à l'égard des autres. Alors comment est-ce que Baudouin, qui apparemment est une personnalité faible, en tout cas affaiblie par sa maladie, qui est extrêmement jeune, arrive à s'imposer doublement? D'une part, comme chef de guerre, alors qu'il n'a pas les mêmes atouts que les chevaliers qui combattent à ses côtés, et d'autre part, comme roi de Jérusalem, c'est-à-dire comme chef politique de ce royaume franc.
Il ne faut pas oublier que lorsque Baudouin monte sur le trône de Jérusalem, c'est-à-dire très exactement le 14 juillet 1174, il y a très exactement 75 ans, jour pour jour, que la royauté franque est établie en Orient, c'est-à-dire qu'il y a une tradition. Si on prend comme exemple le père de Baudouin, Amaury Ier, c'est un personnage qui avait une emprise considérable sur ses barons. Et il est bien certain que Baudouin a bénéficié de cette tradition, si vous voulez, qui était déjà assez longue. C'est un personnage aussi qui a été, au début de son règne au moins, remarquablement bien entouré. D'abord par Guillaume de Tyr, qui avait été son précepteur pendant de longues années, et qui est un personnage exceptionnel dans cette Palestine franque où le clergé est finalement assez dissolu. Et également, il aura le soutien de Raymond de Tripoli, qui est un personnage tout à fait immense, qui aura une influence déterminante sur, si vous voulez, la formation politique de Baudouin.
Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi dans l'aura que va créer autour de lui Baudouin, l'idée de la part de ses barons, de la part des francs qui l'entourent, qu'il est un peu le signe de Dieu, qu'il y a sur lui la main protectrice de Dieu qui protège en même temps ce royaume chrétien de Jérusalem, dans la mesure où justement il n'est pas celui qui a la force de vaincre, et il y a donc quelqu'un d'autre qui l'habite.
Il y a deux visages de Baudouin dans l'historiographie du temps. La première est extraordinairement saisissante, c'est celle qui est la vision de l'Occident. Le 11 janvier 1181, nous sommes à Tusculum, en Italie. Le pape Alexandre III, qui est un géant du XIIe siècle, est sur le point de mourir, il est en exil, il est chassé par les grands barons romains, et il écrit une lettre à la chrétienté où il se préoccupe de l'état du monde au moment où il va mourir. Et il parle du royaume de Jérusalem. Et il écrit cette chose absolument extraordinaire. Baudouin IV, qui est à la tête du royaume de Jérusalem, sur les lieux mêmes où le Christ a souffert et est mort, est affligé d'une maladie honteuse, qui est le symbole même de la déchéance de la Palestine franque. C'est-à-dire que la lèpre, et nous sommes en 1181, n'est-ce pas, Baudouin est déjà en partie incapable de monter à cheval, ce personnage symbolise les dissensions, symbolise l'échec moral du royaume de Jérusalem.
Et donc la punition de Dieu.
Et donc la punition de Dieu. Or, on est très sensible, à l'époque médiévale, n'est-ce pas, au symbole. Tout caractère extérieur, n'est-ce pas, est une marque de l'invisible. Ça, c'est la vision occidentale. La vision de l'Orient est extrêmement différente. Le témoignage des historiens arabes est extrêmement intéressant. Ibn Adadine dit dans sa chronique, les barons le considèrent comme tout le monde. Ce qui est quelque chose de tout à fait unique lorsqu'on sait quel était le sort qui était réservé aux lépreux, aussi bien en Occident qu'en Orient. Seulement, il est bien certain que les barons de Palestine et le peuple lui-même qui a vu, n'est-ce pas, cet enfant monter sur le trône en 1174, c'est-à-dire l'année même où Saladin entre dans Damas, c'est-à-dire l'année même où il vient de faire l'union tant redoutée de la Syrie et de l'Égypte, lorsqu'on verra que cet enfant, n'est-ce pas, va mener pendant des années les troupes franques à la victoire, il est bien évident que l'ensemble du peuple du royaume de Jérusalem et des grandes baronnies qui lui sont liées vont voir alors le symbole de la protection divine. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette idée biblique, n'est-ce pas, du pauvre de Dieu qui, au milieu des pires déréliction physique ou même morale, n'est-ce pas, va conduire son peuple vers la terre promise.
Baudouin va mourir, évidemment, atteint et ravagé par la lèpre en 1185. À ce moment-là, à quoi correspond territorialement et en puissance le royaume de Jérusalem qui en est à sa dernière phase d'expansion?
C'est une bande de territoire, la vallée du Jourdain essentiellement, mais qui va du krach des chevaliers dans la Syrie du Nord au krach de Moab dans aux confins de la mer Morte. Et cette bande de territoire, difficile à défendre, elle est ponctuée de forteresses qui ont été élevés par les croisés. Ce sont des remueurs de pierre véritablement extraordinaires, n'est-ce pas? On n'en finit pas de s'émerveiller et de s'étonner, et lorsqu'on va sur place encore davantage, de voir toutes les forteresses élevées et le simple tonnage de pierre remué par ces hommes. Et quand le chroniqueur Ambroise nous décrit les soldats de l'armée se passant de main en main une pierre, faisant la chaîne, n'est-ce pas, pour se passer les pierres, pour édifier je ne sais plus quel château. Et c'est un spectacle qui a dû être à peu près quotidien. Alors, d'une forteresse à l'autre, on correspond par des signaux, des feux pendant la nuit, des colonnes de fumée pendant le jour, et on peut, elles sont presque toutes à une étape, à un jour de chemin, on peut soit trouver refuge pendant la nuit, soit avoir pendant le jour une route relativement sûre pour circuler d'un point à l'autre de ce royaume qui s'étire de Tripoli à la bande de Gaza, disons.
Quelle est la situation de la dynastie au moment où Baudouin meurt? Apparemment, il a réussi à défendre ce royaume franc contre les Arabes, et en fait, la fragilité vient de l'intérieur.
Oui, la fragilité vient de l'intérieur. Et imaginons ce que pouvaient être les armées de ce temps, et même le peuplement, venu un peu de tous les points d'Europe, principalement, il est vrai, de France, et en France, principalement, de Ardennes, Champagne, Anjou. Il y a un peu moins de croisés de la région toulousaine à cette époque, mais en revanche, il y a un certain nombre d'Italiens. Reste que la discipline ne fait pas leur force principale, non. Sauf chez les ordres militaires. Les Templiers, fondés spécialement pour faire en quelque sorte la police de la route, et les Hospitaliers, qui, à leur rôle d'infirmiers qu'ils n'ont jamais abandonné, joignent un rôle militaire parce que c'est une obligation dans ce pays-là. Et puis il y a les femmes qui ont droit de succession. Et ce droit de succession, elles le revendiqueront, il faut bien le dire, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur aussi, c'est arrivé dans le passé, quand par exemple la reine Mélisande a épousé Foulque d'Anjou. Mais dans le cas présent, il va falloir tenir compte, et les barons de Beyrouth, de Tripoli, de Tyr, et d'ailleurs, vont avoir à s'en rendre compte aussi, il va falloir tenir compte des fantaisies des deux sœurs de Baudouin. De Sibylle, d'abord, et puis d'Isabelle. Sibylle, elle est née, elle a épousé en première noce Guillaume de Montferrat, un baron italien, il est mort, et elle s'est remariée avec un beau chevalier poitevin, arrivé depuis peu, n'est-ce pas, en Terre Sainte, Guy de Lusignan, qui devait être irrésistible puisque Sibylle a tenu absolument à ce que Guy soit non seulement son époux, mais roi de Jérusalem après son frère.
Après la mort de son
premier
enfant.
Après la mort de son enfant, celui qu'elle avait eu de Guillaume de Montferrat.
Et que Baudouin IV avait désigné comme héritier.
Voilà, expressément, si bien que ce petit Baudouin, celui qu'on appelle Baudouinet, qui règnera, il règnera pendant quelques mois sous le nom de Baudouin V, a été couronné à l'âge de 5 ans, et un des barons de Terre Sainte, Balian d'Ibelin, l'a porté sur ses épaules, n'est-ce pas, pour le présenter à la population et le faire acclamer par les bourgeois de Jérusalem. Et les prélats accourus de les points de la Terre Sainte après le couronnement.
Donc très vite, quelques mois après la mort de Baudouin IV, en 1186, se repose à nouveau le problème de la succession. Et là, on a deux femmes, Sibylle et Isabelle.
Le jeune Baudouin V mourut subitement. Tous ceux qui paraissaient se disputer le trône chancelant de Jérusalem furent accusés de sa mort. Et sa mère elle-même ne fut point à l'abri de cet odieux soupçon. Sibylle annonce alors l'intention de se séparer de Guy, son mari, et de choisir pour époux le guerrier le plus capable de défendre le royaume. Elle se rend à l'église du Saint-Sépulcre, entourée de ses principaux officiers. Le patriarche Héraclius prononce le divorce et lui remet le sceptre en l'invitant à ne le confier qu'aux plus dignes. Elle prend la couronne des mains du patriarche et la place sur la tête de Guy, à genoux devant elle. Ses partisans applaudissent, mais les amis de Raymond se retirent, indignés d'avoir été trompés dans leur attente. Guy, loin de chercher à les apaiser, fit des préparatifs pour assiéger Raymond dans Tibériade, lieu de sa résidence. Le comte de Tripoli, au désespoir, implora le secours de Saladin. Et l'armée des Sarrasins tailla en pièces les chevaliers du temple qui voulurent s'opposer à son entrée dans la Galilée. Ce fatal événement détermina Raymond à oublier son trop juste ressentiment. Il vint trouver Guy dans Jérusalem, l'embrassa devant tout le peuple et jura de combattre sous ses ordres les ennemis du non-chrétien.
Une femme qui n'a pas été victime de la raison d'État.
Absolument.
Elle a préféré Guy de Lusignan à Raymond III de Tripoli. Et en même temps, elle a fait non seulement un choix personnel, mais un choix politique qui a des conséquences pour le royaume de Jérusalem.
Oui, et des conséquences, il faut bien le dire, désastreuses.
Et puis alors, il y a aussi un personnage absolument désastreux qui apporte son soutien à ce couronnement de Sibylle et de Guy de Lusignan, c'est Renaud de Châtillon.
Ah, alors celui-là, l'historien Schlumberger nous a entretenu de ce roman de Capet d'Épi, qu'est l'histoire de Renaud de Châtillon, mais roman essentiellement néfaste. Et désastreux aussi parce qu'il introduit dans les rangs des croisés le manque total de scrupules et, chose très grave pour un chevalier, aucun souci de la parole donnée. Il avait mis en péril à plusieurs reprises déjà le royaume de Jérusalem, mais on avait cru bien faire en lui donnant le krach de Moab, qui est assez reculé, forteresse isolée. C'était un des endroits où tout de même sa valeur, car elle est indéniable aussi, pouvait être mise à l'épreuve et où il risquait le moins de nuire à l'ensemble du royaume. C'était assez judicieux, oui, mais il échappait aussi complètement au contrôle de ses compagnons d'armes et du roi de Jérusalem. Si bien qu'il aura fallu, au fond, ces trois forces réunies, celle de Guy de Lusignan, un être insignifiant avec qui le dernier qui a parlé a raison, Gérard de Ridefort, cet être par certains côtés insignifiant lui aussi, mais vindicatif, mauvais, vraiment funeste tout à fait.
Le grand maître de l'ordre du temple.
Oui, le grand maître de l'ordre du temple, et qui agit complètement à l'encontre de l'intérêt même le plus proche des Templiers, et Renaud de Châtillon, qui ne peut s'empêcher, lorsqu'il voit une caravane passer à sa portée, serait-elle garantie par sauf-conduit du roi de Jérusalem ? Verrait-elle dans les rangs la propre sœur de Saladin ? Eh bien, il ne peut pas s'empêcher de faire main basse dessus.
Ce qui crée et suscite tout de suite, évidemment, la vengeance de Saladin. Et les représailles, et donc la reprise de la guerre.
Et qui reprend, qui plus est, dans les conditions les plus désastreuses, au mois de juillet, mois des pleines chaleurs, l'armée va s'engager dans ce qu'on appelle les cornes de Hattin. Elle va avoir contre elle non seulement les armées de Saladin, mais la chaleur et la soif. Et finalement, il suffira presque d'un feu de broussailles allumé par l'ennemi au moment où le vent souffle contre elle pour que l'armée se trouve anéantie. Seul Raymond Tripoli arrivera à faire une percée dans les rangs des Sarrasins et à littéralement s'échapper d'un désastre qui est total.
Le samedi matin, les musulmans sortirent de leur camp en ordre de bataille. Les Francs s'avançaient aussi, mais déjà affaiblis par la soif qui les tourmentait. De part et d'autre, l'action commença avec fureur. La première ligne musulmane lança une nuée de flèches, semblable à une nuée de sauterelles. Les flèches firent un grand ravage parmi les cavaliers chrétiens. L'infanterie chrétienne s'était ébranlée pour se porter vers le lac et y faire de l'eau. Aussitôt, Saladin courut se placer sur son passage, animant les musulmans de la voix et du geste. Tout à coup, un des jeunes mamelouks du sultan, emporté par son appel, s'élança sur les chrétiens. Bientôt, il n'y eut plus pour les chrétiens d'espoir de salut. Le comte de Tripoli essaya de se frayer en passage. Taqiyeddin, neveu du sultan, était placé en face. Quand il vit le comte s'avancer en désespéré, il fit ouvrir les rangs et le comte se sauva avec sa suite. L'armée chrétienne était alors dans une situation horrible. Comme le sol où elle combattait était couvert de bruyères et d'herbes sèches, les musulmans y mirent le feu et allumèrent un vaste incendie. Ainsi, la fumée, la chaleur du feu, celle du jour et celle du combat, tout se réunit contre les chrétiens. Ils furent si consternés que peu s'en fallut qu'ils ne demandassent quartier. À la fin, voyant qu'il n'y avait plus de salut, ils fondirent sur les musulmans avec tant d'impétuosité que, sans le secours de Dieu, on n'aurait pu leur résister.
Cette bataille se livra un samedi. Les chrétiens étaient des lions au commencement du combat et ne furent plus à la fin que des brebis dispersées. De tant de milliers d'hommes, il ne s'en sauva qu'un petit nombre. Le champ de bataille était couvert de morts et de mourants. Je traversais moi-même le mont Hittin. Il m'offrit un horrible spectacle. Je vis tout ce qu'une nation heureuse avait fait à un peuple malheureux. Je vis l'état de ses chefs. Qui pourrait le décrire? Je vis des têtes tranchées, des yeux éteints ou crevés, des corps couverts de poussière, des membres disloqués, des bras séparés, des os fendus, des coups taillés, des lombes brisées, des pieds qui ne tenaient plus à la jambe, des corps partagés en deux, des lèvres déchirées, des fronts fracassés. En voyant ces visages attachés à la terre et couverts de sang et de blessures, je me rappelais ces paroles du Coran. L'infidèle dira: « Que ne suis-je poussière ? » Quelle odeur suave s'exhalait de cette terrible victoire.
Entouré de toutes parts et repoussé jusqu'à une colline voisine près du hameau de Hittin. Là, ils essayèrent de dresser quelques tentes et de se défendre. Le roi n'eut bientôt plus autour de lui sur la colline que 150 cavaliers des plus braves. Afdal était alors auprès du sultan, son père. J'étais, disait-il lui-même dans la suite, à côté de mon père, quand le roi des Francs se fut retiré sur la colline. Les braves qui étaient autour de lui fondirent sur nous et repoussèrent les musulmans jusqu'au bas de la colline. Je regardai alors mon père et j'aperçus de la tristesse sur son visage.
« Faites mentir le diable !»
cria-t-il aux soldats en se prenant la barbe. À ces mots, notre armée se précipita sur l'ennemi et lui fit regagner le haut de la colline. Et moi de m'écrier, plein de joie, « Il fuit ! Il fuit !» Mais les Francs revinrent à la charge et s'avancèrent de nouveau jusqu'au pied de la colline. Puis furent repoussés encore une fois, et moi de m'écrier de rechef, « Il fuit ! Il fuit !» Alors mon père me regarda et me dit, « Tais-toi. » Ils ne seront vraiment défaits que lorsque le pavillon du roi tombera. Or, il finissait à peine de parler que le pavillon tomba. Aussitôt, mon père descendit de cheval, se prosterna devant Dieu et lui rendit grâce en versant des larmes de joie.
Quand les Sarrasins eurent déconfit les chrétiens, Saladin rendit grâces à Dieu de l'honneur qu'il lui avait fait et fit crier parmi l'armée qu'on lui amena en sa tente tous les chevaliers prisonniers. Quand il vit le roi Guy de Lusignan et les autres barons qui étaient dans sa merci, il en fut fort joyeux. Il vit que le roi avait chaud et sut bien qu'il avait soif et qu'il boirait volontiers. Il fit apporter pleine coupe de sirop à boire pour le rafraîchir. Quand le roi eut bu, il tendit la coupe au prince Renaud de Châtillon, qui, à côté de lui, était assis, pour qu'il boive. Quand Saladin vit que le roi avait donné à boire au prince Renaud, qui était l'homme au monde que plus il haïssait, il en fut très durement courroucé et affligé et dit au roi « Cela m'ennuie !» que vous lui ayez donné à boire. Mais puisqu'il lui avait donné, qu'il boive. Mais ce serait à telle condition que jamais autre chose ne boirait. Car pour nulle richesse qu'on lui sût donner, ne le laisserait-il plus vivre qu'il ne lui coupa la tête lui-même de sa main, que jamais foi ni serment Renaud ne lui avait tenu des trêves qu'il avait conclues. Quand le prince Renaud eut bu, Saladin le fit prendre et mener hors de sa tente. Il demanda une épée Et on la lui apporta, et il la prit, et lui coupa la tête.
Massacre de Hattin du 4 juillet 1187.
Mais le jour de Saint-Martin, le bouillant.
L'écrasement des Francs, la fin du royaume de Jérusalem, la disgrâce de Guy de Lusignan, qui est fait prisonnier avec, parmi les trois personnes qui ont dirigé cette armée franque, c'est-à-dire Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon et
Gérard de Ritva.
Alors ce massacre des Francs aurait pu peut-être ne pas avoir lieu si un an plus tôt, au lieu de couronner Sibylle et Guy de Lusignan, eh bien, ça avait été Isabelle qui avait été choisie comme reine de Jérusalem. Et elle a failli
Isabelle
être...
Isabelle avait des droits, elle aussi, elle avait des droits. C'était Sibylle qui était l'aînée, mais enfin, Isabelle avait été désignée avec son époux, le jeune époux qu'on lui avait déjà donné, Onfroy de Thoron.
Et alors, ce choix avait été fait par le régent, c'est-à-dire par Raymond III de Tripoli.
Oui, choix qui n'avait pas été ratifié par les barons. Tout de même, Onfroy de Thoron, les barons de Terre Sainte lui auraient probablement fait confiance, ne serait-ce que parce qu'il était descendant d'une lignée très illustre, parce qu'il était aussi du pays, il parlait l'arabe comme le franc, n'est-ce pas ? On le voit servir d'interprète à plusieurs reprises dans les entretiens. Mais c'est un être visiblement plus porté vers les joies de l'intellect que vers le maniement de l'épée.
C'est un homme qui n'est pas très courageux, ce qui est évidemment un défaut majeur pour un chevalier du Moyen-Âge.
Bien sûr, et surtout en Terre Sainte.
Quand Onfroy sut qu'on voulait le couronner comme roi, il pensa qu'il n'en pourrait pas supporter la peine. Quand vint la nuit, il monta à cheval avec ses chevaliers, ils chevauchèrent toute la nuit, et ainsi s'en furent à Jérusalem. Et quand vint le lendemain au matin que les barons furent levés, ils se préparèrent pour couronner Onfroy. Alors ils apprirent qu'ils s'étaient enfuis, et étaient allés à Jérusalem. Et quand Onfroy vint à Jérusalem, il vint devant la reine Sibylle, dont il avait la sœur pour femme, et la salua. Elle ne le salua pas parce qu'il avait été contre elle et parce qu'il n'avait pas assisté à son couronnement. Il commença à se gratter la tête comme un enfant honteux et dit « Dame, je n'en puis mais, car l'on me voulait faire roi par force. » Et la reine lui dit « Sire Onfroy, vous avez raison. Et puisque vous avez agi ainsi, je vous pardonne, allez, et faites votre hommage au roi. » Onfroy remercia la reine parce qu'elle lui avait pardonné. Il fit hommage au roi et demeura avec la reine Sibylle à Jérusalem.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur une princesse victime de la raison d'État, Isabelle de Jérusalem, par Jean Montalbetti. Médiateur, Régine Pernoud. Consultant, Pierre Houbet. Les textes extraits de la chronique de Saint-Ambroise et des chroniques arabes ont été dits par François Mestre, Jean-Claude Drouot et Pierre Tabar. Recherche de documentation, Catherine Montalbetti. Prise de son, Daniel Burguez. Mixage, Guy Senot et Michel Gallou. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.
Jérusalem se plaint et l'Iparis. Ô dame Eldio, souffrit morte bonnement. Que de sa mère a poué de ses amis. Qui de secours l'y fasse maniant. S'il souvenait qu'ascuse des jugements et d'elle saint lieu où il souffrit tourment, quand il pardon de sa mort fit l'angise, le rescrouisier faisit ce mot envise.
Cette émission, le premier volet d'une série de trois, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 septembre 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Ta gueule.